Est-ce que vous êtes conscient que ce dont nous avons surtout besoin, c'est de vérité, d'être confronté à la vérité? Vous aimez la vérité? Vous aimez vrai? Qui c'est la vérité? Alors on va commencer, on va poursuivre ce qu'on a vu hier soir, on va partir du dernier texte, de la dernière parole de l'Ancien Testament. Dans le prophète Malachie, au chapitre 4, le verset 6, le dernier verset. Vous savez, quand on a, dans l'hébreu, quand on a quelque chose d'important à dire, on le dit à la fin. Malachie, chapitre 4, verset 6. Les textes que je vais citer pendant cette exhortation, je vous encourage à les noter, surtout si vous êtes confronté à des croyants qui n'aiment pas la vérité. Est-ce que vous croyez que tous les croyants aiment la vérité? Comment? Mais moi, je peux vous dire que non. Malachie chapitre 4, verset 6. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Et regardez ce qui est dit après. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Je le relis. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Dans l'évangile de Matthieu, à la fin de l'évangile, vous connaissez également cette parole que Jésus a donnée avant de remonter au ciel. Là aussi, ça fait partie des dernières paroles de Jésus. Matthieu, chapitre 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà le rôle d'un serviteur, c'est d'enseigner à ce que les disciples observent tout ce que le Seigneur nous a dit. Voilà pourquoi nous sommes ici ce matin. On a parlé hier soir du choix d'un conjoint à la lumière des Écritures. Là, on va parler du mariage selon Dieu à la lumière des Écritures. Mais ce texte que nous venons de lire dans l'Ancien Testament nous montre que quand les foyers sont déchirés, le pays est en danger. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que si les foyers qui composent une église ne vont pas bien, l'église est en danger. Alors moi je dis amen quand vous priez pour le réveil. Mais je peux vous dire qu'il y a longtemps que je ne prie plus pour le réveil. Je prie pour que les familles comprennent ces choses. Parce qu'il y a un malheur qui vient lorsque les familles sont déchirées. Je ne sais pas. Moi, j'ai ma façon de voir. J'avance à mon rythme. Et je me demande si les chrétiens, les croyants, les familles que nous composons, les couples, sont conscients que l'Église, elle est comme sont les familles. Si dans une église, il y a 30 familles et que les 30 familles sont déchirées, l'Église, elle est déchirée. Pas besoin d'être prophète pour expliquer ces choses. Moi, je crois que Dieu s'intéresse à notre bonheur. Plusieurs l'ont dit dans la prière, je suis heureux, merci Seigneur, etc. Les chants, la joie du salut. Dieu s'intéresse à notre bonheur. Mais justement, quand il dit, je t'instruis pour ton bien. Et tous les commandements de Dieu, tous, sont protecteurs. Non, mais je vous assure, il y a des chrétiens, il faut que vous l'entendiez. Vous l'avez déjà entendu, ici vous l'avez entendu. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent sur le net. Il y a beaucoup de croyants qui ne sont jamais passés par la nouvelle naissance. Ce qui fait qu'ils interprètent les commandements de Dieu comme des problèmes. Tous les commandements de Dieu sont justes. Vous entendez mes frères et sœurs? Tous. Même si on ne les comprend pas. Bien sûr que l'évangile, c'est quoi? C'est le salut de l'âme. Et vous avez remarqué que presque tous les meneurs de chant, lorsqu'ils présentent un culte ou une réunion, commencent toujours avec un cantique sur la joie du salut, parce que c'est une vérité. La chose la plus importante, c'est le salut, avec sa joie évidemment. Mais l'évangile, ça a des implications dans la vie sociale. On ne peut pas l'enlever, ça. L'évangile, ce n'est pas que le spirituel. L'évangile fait que nos familles doivent être sauvées. D'ailleurs, quand Paul et Silas s'occupent du geôlier de Philippe, qu'il y a une bénédiction sur cet homme qui s'est repenti parce qu'il a été sous pression lui aussi, Paul lui dit, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. On voit bien que l'évangile doit avoir des répercussions dans la famille. Vous êtes d'accord? Votre famille doit être bénie. Vous le voulez vraiment? Mais elle ne va pas être bénie par magie. La magie, ça existe dans le monde des ténèbres. Dans le royaume de Dieu, il y a des lois, il y a des responsabilités. Et les gens, ils viennent dans les églises, ils veulent bien la bénédiction, ils veulent bien un beau sermon. Vous voulez un beau sermon? Avec moi, je vous le fais. Il y a des gens qui prient, Seigneur, qu'on ait un beau sermon ce matin. Écoutez-moi, le beau sermon, je sais faire. Hein. Mais on n'a pas besoin d'un beau sermon. On a besoin de connaître ce que Dieu veut que nous connaissions. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Dieu veut bénir la famille. Dieu veut bénir votre famille, mon frère. Ma sœur, Dieu veut bénir votre famille. Alors le mariage, moi j'entends tellement de choses. Quand les pécheurs, les païens, font tout un tas d'histoires par rapport au mariage, moi ça ne me dérange pas. Mais ce que j'entends dans la bouche des chrétiens prouve, ou alors qu'ils sont au début de leur vie chrétienne et qu'ils n'ont pas encore tout compris, qu'ils sont dans une ignorance totale, ou pire, c'est que si au bout de 3 ou 4 ans de conversion, ils sont toujours dans les ténèbres, c'est qu'ils ne lisent pas la Bible. Vous pouvez le calculer comme vous voulez. Ou alors, c'est que la conversion n'a jamais eu lieu et que l'approche, elle est intellectuelle ou sentimentale. Avant le mariage, hier j'en ai parlé un peu, vous savez. C'est délicat le mariage. Parce que là, je sais très bien que je ne m'adresse pas qu'à des jeunes qui veulent se marier. Je m'adresse à des gens qui sont mariés. À des jeunes qui sont fiancés. Le mariage, c'est sérieux, bien sûr, qu'on peut faire un peu d'humour, ce n'est pas interdit. Mais il y a des gens peut-être divorcés au milieu de nous. Il y a des veufs. Vous savez, le mariage, c'est un sujet. En plus, la Bible en parle énormément. Et je me pose des questions. Je viens de parler des chrétiens qui sont légers. Et si on est léger, on ira à la catastrophe. Je pense aussi que les prédicateurs sont légers. Ça fait que le résultat sera que les foyers seront légers si les gens ne lisent pas la Bible. Mais vous savez, il vaut mieux commencer comme il faut. Vous savez, une maison, quand on la commence, on travaille les fondements. Il y a des gens qui construisent n'importe comment. Ils se marient en quelques jours, en quelques semaines, en quelques mois. On s'aime, je l'aime, il m'aime. Je le changerai, monsieur Gros, je le changerai. Vous savez, il vaut mieux bâtir sur de bons fondements. C'est vrai que Dieu est un Dieu de miracles. Est-ce que Dieu peut réparer les fondements? Est-ce que Dieu... Bien sûr. Est-ce qu'il est le réparateur des brèches? Bien sûr. Lorsque Adam et Ève, malgré leur compatibilité spirituelle, psychique et physique, se sont unis, oui. Lorsque la tentation s'est présentée, ils ont cédé, tous les deux. Vous voyez, comme quoi il peut y avoir complémentarité dans tous les domaines, et malgré tout céder à la tentation, parce qu'on ne veille pas l'un sur l'autre. Et je suis en train de méditer sur tous les couples de la Bible. Je suis émerveillé de voir combien dans chaque couple, il y a quelque chose qui nous enseigne ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas faire. Et moi, je m'interroge, hein, moi en tant que pasteur, pour être un vrai serviteur de Dieu, pas un bon prédicateur. Mais je m'interroge sur l'état des églises, la façon dont certains couples ont compris l'évangile. Est-ce que, par exemple, c'est normal qu'un homme prie avec sa femme? Est-ce que c'est normal? Moi, j'entends des fois des couples qui disent « Ah, moi, je ne prie jamais avec ma femme, de toute façon, on n'est pas d'accord. » Moi, je trouve que c'est beau un couple qui prie ensemble.
On fait plein de choses ensemble quand on est marié. On ne peut pas prier ensemble. Ah non, moi je suis très pudique. Ah bon? Bon. Dieu est le réparateur. Et j'aimerais qu'hier nous avons conclu quand Adam et Ève ont péché, qu'est-ce que Dieu a été obligé de faire? De sacrifier un animal pour les couvrir. Et je voudrais vous expliquer que même si on est dans des temps extrêmement difficiles, extrêmement compliqués, Dieu a toujours une solution. Mais il faut l'écouter. Et moi, je vous assure, les gens, ils écoutent, ils sont contents. Merci pour le sermon, c'était intéressant, c'était très bien. Oui, mais ce n'est pas ça que Dieu vous demande. Ce que Dieu nous demande, c'est de mettre en pratique la parole. C'est d'obéir à la parole. Le choix d'un conjoint, c'est sérieux. Le mariage, c'est sérieux. Ce n'est pas de la loterie. Ah, moi, vous savez, monsieur, j'ai eu du bol. Hein. Je suis tombé sur le bon numéro. Le mariage, ce n'est pas la loterie. Mais vous l'avez déjà entendu, ça, oui ou non? Tout ce que je dis, c'est des choses que j'ai entendues. Tous les témoignages que je vous ai donnés hier soir, c'est des témoignages que j'ai entendus ici, dans cette église. Donc le choix d'un conjoint, c'est sérieux. Le salut, c'est archi important. Mais la famille, l'église sera bénie, réveillée en proportion de la qualité des familles. Vous croyez que l'église, c'est là, c'est maintenant, ça y est, on est rassemblés, vous venez de tel endroit. Moi, voilà. Non, l'église, c'est ce que nous sommes toute la semaine aussi. Toute la semaine. Donc ça implique une réflexion spirituelle, une réflexion humaine. On doit réfléchir. Il n'y a pas que la foi, il y a le bon sens. Dans un foyer, il y a le bon sens. Par rapport à la vie intime du couple, j'en parlerai pas ce matin. Mais sachez que si je dis quelque chose, c'est que c'est écrit dans la Bible. Et que je n'irai jamais au-delà de ce qui est écrit. Jamais. Donc si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord avec la parole. Et pas avec moi. Croyez-moi. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ce n'est pas grave. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec Dieu, c'est grave pour vous. Il ne faut pas confondre l'humain et le charnel. Vous voyez, rien que ça. Combien de gens confondent l'humain et le charnel? Il n'y a pas à avoir honte d'être des êtres humains. Jésus-Christ a-t-il revêtu, oui ou non, la nature humaine? Oui. Nous n'avons pas à avoir honte d'être des êtres humains. Par contre, nous devrions savoir discerner, je ne parle pas du spirituel, ce qui est charnel de ce qui est humain. Est-ce qu'un chrétien doit le savoir, ça? Bien sûr, au bout de quelques mois, au bout d'un an ou deux, il doit comprendre ce qui est dans la Bible est charnel ou humain. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet parce que je ne pourrais pas dire tout ce que j'ai à vous dire. Quand la Bible dit qu'un croyant ne doit pas se marier avec un incroyant, qu'est-ce que les chrétiens en pensent aujourd'hui? Vous voyez, il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas d'accord. Moi, je fais ce que je veux. Mais vous pouvez en plus. Parce que je le répète, comme j'aime le dire, vous êtes dans une église. Vous n'êtes pas dans une secte. Et si vous voulez faire une erreur, ou si vous voulez désobéir, vous pouvez le faire. Nous, on est là pour vous donner des conseils. L'apôtre Paul a dit, je suis resté à Éphèse, quand il est resté 3 ans à Éphèse, il a dit, je suis resté pour vous annoncer tout le conseil de Dieu. Moi, je suis là pour vous annoncer tout le conseil de Dieu. Là, on aborde le problème des fiançailles, on aborde le problème du choix d'un conjoint, ce matin, du mariage. Dans la vie intime, on pourrait y aller parce qu'il y a des textes qui en parlent d'une manière très intelligente et qui montrent combien, en tous les cas, un homme doit faire connaître à sa femme ses besoins et une femme doit faire connaître à son mari ses besoins. C'est écrit dans la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'invente. Parce que franchement, quand je vois les conflits dans les... Vous savez, je vais vous dire des choses qui me font de la peine. Le mois dernier, il y a un pasteur qui nous a dit « Je vais certainement arrêter le ministère parce que j'en ai marre de voir les problèmes de couple dans l'église. » Vous y étiez, les stagiaires? Franchement, qu'est-ce que vous en pensez? C'est triste. Et un bon pasteur, parce qu'il y a des mauvais pasteurs, mais il y a des bons pasteurs. Vous comprenez que tout ça, quand même, on ne peut pas être insensible. Ça nous brise le cœur de voir que l'Église, qui devrait être une source de bénédiction, car quand même, si nous sommes bénis, moi j'en déduis que la bénédiction, si elle est en nous, elle va rejaillir sur les autres, oui ou non? Si j'ai la paix, je pourrais facilement la procurer aux autres, oui ou non? Et quand on voit des pasteurs, des vrais pasteurs, qui vous disent, moi j'en ai marre de m'occuper des couples dans l'Église qui sont tout le temps en train de se séparer. Alors moi, je ne veux pas juger. Parce que je pense qu'on n'a pas jugé, mais quand même on peut faire des constats qui interpellent la légèreté. Parce que si vous êtes léger, vous allez le payer cher. Vous allez le payer cher. Je sais que ça ne plaît pas ce que je dis, mais ça ne fait rien. Vous le payerez cher. Les commandements de Dieu, je le répète, ils sont tous bons. Si vous commencez à contester avec Dieu, qu'est-ce qu'elle dit la Bible ? Malheur à l'homme qui conteste avec Dieu. Vous contestez avec des politiciens, ça vous pouvez y aller, et de bon cœur. Mais contester avec Dieu, c'est ridicule. Parce que Dieu, il vous aime et vous instruit pour votre bien. Alors, quelques considérations sur le mariage. Le mariage, c'est une union légale. Alors, je prends le dico. Le mariage, c'est une union légale, un lien légal, donc dépendant de la législation en vigueur dans le pays. Quand il est dit dans 1 Corinthiens 7, 39, notez-le pour les gens qui vous poseront des questions. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Romain, on peut lire un texte, on l'a lu hier, mais ça ne fait rien. Moi, j'aimerais que vous notiez ces textes pour que vous puissiez expliquer à tous ces chrétiens qui sont désobéissants que le mariage, c'est un lien. Alors, quel lien, au fait ? Tiens, un lien. Romains 7, c'est quoi ce lien ? Vous avez vu ? Romains 7, verset 1 et 2. Regardez bien. Romains 7, 1. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée à la loi, à son mari, tant qu'il est vivant. Quelle loi ? La loi de Moïse ? Est-ce qu'on est dans la loi de Moïse ? Non, on est dans la législation, dans la loi du pays. Donc, il y a un mariage dans l'Ancien Testament, il y a plein de lois en vigueur par rapport au mariage. Et aujourd'hui, on entend dire que non, du moment qu'on vit ensemble, on est marié. Il y a un lien légal du mariage. Dans notre pays, en France, il y a un lien légal. Alors, il y a des peuples, en France, des peuples, qui disent, écoutez bien, parce que je veux être bref et précis, que la relation sexuelle fait le mariage. Il y a une dénomination en France qui le dit. La relation sexuelle ne fait pas le mariage. Par contre, le mariage, lui, aboutit à la relation sexuelle. Et il vaut mieux. J'en ai parlé hier soir des gens qui se marient, et puis après le mariage, qui ne veulent pas de relation. Quand c'est comme ça, eh bien, il faut rester frère et sœur. Et ça, c'est une question de malhonnêteté. Ce n'est pas parce que l'homme et la femme ont des relations sexuelles qu'ils sont mariés. Regardez bien. Il faut des preuves parce qu'il y a des gens qui me disent « Oui, monsieur, maintenant on veut des preuves. » Comme si, voyez, la confiance. La confiance règne. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 16. Marquez ces textes parce qu'ils vous serviront, je vous le dis, dans la situation de confusion dans laquelle se trouve le peuple de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 16 à 19. C'est important ces choses, vous savez. Pour moi, c'est clair, je ne voulais pas en parler, mais comme plusieurs m'ont dit, monsieur Gau, faites une étude sur le mariage, faites une étude pour les jeunes, etc. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle ? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Donc, lorsqu'un homme couche avec une femme, qui n'est pas mariée, là, c'est clair. Ils font une seule chair. Sont-ils mariés ? Regardez la suite. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Alors regardez, ce péché est assez sérieux pour que Dieu le sépare de tous les autres en indiquant une condition. Enfin, un conseil. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Vous avez la preuve, écoutez, si ça ne vous convainc pas, vraiment, mettez-vous à genoux et allez au calvaire. Et convertissez-vous. Vous avez la preuve par ce texte que la relation sexuelle ne fait pas le mariage. Et je sais bien qu'ici dans l'église, c'est réglé. Mais comme je sais qu'il y a des milliers de gens qui écoutent mes prédications, je veux que vous sachiez ces choses. Il faut que vous le sachiez. C'est ma responsabilité. Celui qui s'unit sexuellement à une femme sans être marié, il est dans la débauche. écoutez, vous l'interprétez comme vous voulez, il est dans le péché, il est dans l'impudicité. Regardez cet autre texte avec moi. Et ça doit. Et j'espère que vous êtes content d'entendre ça. Parce que si vous n'êtes pas content, ça craint. Hébreux chapitre 13, vous connaissez un texte sur le mariage. Hébreux chapitre 13, verset 4. Alors je le donne, c'est très clair, mais ce n'est pas la peine d'aller de donner 50 explications. Hébreux chapitre 13, regardez bien, verset 4. Il faut, si vous êtes chrétien né de nouveau, vous savez que je n'exagère rien. Les gens qui contestent, c'est parce qu'ils ont été mal enseignés, certainement. Hébreux chapitre 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous. Voilà. C'est pas beau, ça? Votre mariage, est-ce que vous honorez votre femme? Est-ce que vous honorez votre mari? Qu'est-ce que ça veut dire, que le mariage soit honoré de tous? Comment l'Église sera-t-elle honorée par le monde si on n'honore pas le mariage? Vous savez, il y a 40 ans en arrière, je fais des petites digressions, c'est pas grave. Il y a 40 ans en arrière, quand on parlait des églises, vous allez me dire que je caricature un peu, peut-être, mais c'est quand même la vérité. Il y a 40 ans en arrière, quand on parlait des églises, on parlait des missions qui étaient faites, et de certaines bénédictions qui étaient reçues par les pécheurs, des conversions, etc. Aujourd'hui, quand on parle des églises, c'est pour étaler les scandales des pasteurs. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ouais, pourquoi? Parce qu'on n'a pas honoré le mariage. Ça me vient à l'esprit, mais c'est si je vous dis tout ce qui me vient à l'esprit, on n'est pas sorti de l'église. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de toute souillure. Car, alors j'en profite, le lit conjugal exempt de toute souillure, ça ne veut pas dire que quand on est marié, on n'a pas droit d'avoir des relations. Bien au contraire. La Bible dit, ne vous privez pas l'un de l'autre. Cela veut dire que dans le lit, dans notre lit, il doit y avoir personne d'autre que notre conjoint. C'est ça que ça veut dire. Car Dieu, écoutez-moi, je ne sais pas comment vous allez le lire ça. Car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Vous l'avez comme moi? Oui, le mariage aboutit à une seule chair. Une seule chair, on vient de le lire dans les Corinthiens, ne fait pas le mariage, mais la manifestation du péché. Parce que moi, je l'entends de plus en plus. L'autre jour, j'étais à la poste. Et il y a une dame qui m'a... Oui, je vous donne ce dernier témoignage. Elle, ah, vous êtes pasteur? Parce que je le dis, quand je peux le dire, ça me permet de témoigner. Ah, justement, ma fille, elle est avec un chrétien. Elle est avec un chrétien. Et il m'a dit qu'ils étaient mariés. Ils sont passés par la mairie. Ah non, ils ne sont passés par rien du tout. Mais ils disent qu'ils sont mariés. Ils ne sont pas mariés. C'est un chrétien? Oui. J'ai dit, non, ce n'est pas un chrétien, c'est un croyant. Et on a pu parler du Seigneur. Ah, je me disais bien quand même qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas. Mais une païenne. Des païens qui se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Ouais, c'est grave. C'était grave. Le mariage aboutit à la relation. Et il doit aboutir à cette relation et épanouie de la sexualité. Parce que ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, s'il vous plaît. La relation sexuelle sans le mariage... C'est le péché, c'est la débauche, c'est l'impudicité. Voilà. L'adultère, c'est quand il s'agit de gens mariés. Si quelqu'un est marié, qu'il couche avec une autre personne que son conjoint, c'est un adultère. Et l'impudicité ou la fornication, mais c'est surtout l'impudicité. Oui, qu'est-ce qui est dit là? C'est déjà les débauchés. L'impudicité, il s'agit de gens célibataires qui ont des relations sexuelles en dehors du mariage. Et Dieu jugera les adultères. Vous pouvez dire ce que vous voulez, que Dieu a changé d'avis, que Dieu a changé. Moi, il y a une jeune fille un jour qui me dit, mais monsieur Gros, évoluez. Dieu a changé d'avis. Une jeune fille ici qui m'a dit ça. Si la Bible parle de ce péché d'une manière suffisamment grave pour qu'elle le mette à part, comme on l'a vu, parce qu'il est quand même dit que celui qui pêche contre son propre corps pêche contre le Saint-Esprit, oui ou non? Donc c'est grave. Le mariage, ce n'est pas non plus un échange de promesses, en privé. Que le mariage aboutisse à des promesses, oui. Mais l'échange de promesses, comme certains se le font, on se marie tous les deux. Seigneur, tu le vois? Oui, ah oui, Dieu le voit, oui, ça c'est clair. Dieu voit que ça ne va pas. Et il y a des gens qui sont... Ils me l'ont dit, ce que je vous dis, tout ce que je vous dis, je l'ai entendu. C'est bien la preuve qu'il y a des gens qui tordent les Écritures, croyez-moi. Certains se sont crus mariés parce qu'ils s'étaient promis fidélité devant Dieu. C'est vrai qu'il y a une alliance dans le mariage. Une belle alliance. Je ne sais pas si vous l'avez, votre alliance du mariage. Vous l'avez. Moi, quand des fois, je la regarde et je dis merci Seigneur. Parce qu'il y a quand même, ça représente quelque chose. Non, la bague, ça ne représente pas quelque chose. Pour moi, ça représente un engagement. Un peu de frais, mais enfin, c'est surtout un engagement. Ouais. C'est pour ça qu'à ma femme, j'avais pris une toute petite bague. J'avais dit, mais j'aime les petits bijoux. J'aime les petits bijoux. En vérité, c'était que les gros, ils étaient jeunes. Pardon, chérie, pardon, pardon. Pour qu'il y ait un mariage, écoutez bien, il faut que ce soit fait dans le cadre social, devant l'autorité compétente pour prononcer le mariage. D'accord ? Un échange en promesse, en privé, n'est pas un mariage, même devant un pasteur. Parce qu'il y a dans le mouvement, il y a en France, des pasteurs, des prêtres, des curés, des imams, des rabbins, qui marient des gens sans que ces gens-là ne soient passés devant l'autorité compétente. Et c'est interdit. Pour cela, j'ai demandé qu'on projette l'article 433-21 du code pénal. Regardez bien, parce qu'il y a des pasteurs qui enseigne, moi la dernière fois où j'étais en Polynésie, il y a une chrétienne, 40 ans de conversion, qui me dit, Monsieur Gau, je me suis marié. Ah bon ? Je me suis marié avec un tel, voilà. C'est tel pasteur qui nous a mariés. Mais à quelle mairie vous vous êtes marié ? Ah ben on n'est pas passé par la mairie. Je dis, mais vous n'êtes pas marié. Ah si, Monsieur Gau, le mariage à l'église est plus important que le mariage à la mairie. Mais non, ce n'est pas vrai. Vous êtes marié quand vous vous êtes engagé devant monsieur le maire, devant l'autorité compétente qui représente la législation en vigueur dans le pays. Et regardez ce qui est dit de ceux qui font des mariages religieux sans passer par l'autorité civile. Vous le lisez ? Tout ministre d'un culte qui procédera de manière habituelle aux cérémonies religieuses de mariage sans que ne lui ait été justifié l'acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil, sera puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Mais vous tapez sur Internet. Parce que quand on veut savoir quelque chose, on le sait. Tout aujourd'hui. Tapez, un ministre du culte a-t-il le droit de marier des gens sans passer par la mairie? Vous allez voir les articles du code pénal. C'est pas moi qui l'invente. Mais ça arrive, ça. Écoutez, l'autre jour, il y a un pasteur qui a été stagiaire ici, il m'a raconté ce témoignage dans la région. Dans la région, un chrétien qui a rencontré une fille sur Internet, il a été se marier en Algérie, dans une mosquée, sans passer par la mairie, et il croit qu'il est marié. Mais il n'est pas marié. En plus, il s'est marié avec une musulmane. Alors, je ne suis pas contre, moi j'aime les musulmans. Mais je pense à nos enfants. Vous savez, quand vous avez une femme qui vous dit, Monsieur Gau, mon mari, il veut pas que je chante un cantique dans la maison. Il veut pas qu'on rende grâce à table. Il veut pas que je lise. Vous aviez raison, Monsieur Gau. Les gens, ils n'écoutent pas. Mais vous avez vu, vous pouvez l'enlever, Monsieur, merci. Quand il est dit dans la Bible, soyez soumis aux autorités, il faut être soumis aux autorités. Oui ou non? Mais moi, je vous dis, moi, je me fais vraiment du souci. Parce que plein de chrétiens ne sont pas en règle. Alors, ils sont là, oui, mais je suis soumis aux autorités, d'accord. Oui, pour le mariage, il faut se soumettre aux autorités. En Amérique, alors oui, mais en Amérique, les pasteurs, ils marient les gens. Oui, parce qu'en Amérique, il n'y a pas la séparation de l'Église et de l'État, comme chez nous en France. Mais les pasteurs qui marient dans les églises aux États-Unis, eh bien, ils ont un papier de la mairie comme quoi ils peuvent officialiser l'union. C'est légal. En Afrique, il y a des lois, dans chaque pays, dans chaque peuple, il y a des cultures et des coutumes qu'on doit respecter par rapport au mariage. C'est pour cela que le mariage à l'église n'est pas le mariage devant Dieu. Ça vous étonne ? Parce qu'il y en a qui nous disent, oh monsieur Gau, on n'est pas marié devant Dieu. Parce qu'il y a des gens qui se convertissent, oui, mais comment ça ? Vous n'êtes pas passé par la mairie ? Monsieur, la mairie, mais on n'est pas passé. On est marié quand on a dit oui devant monsieur le maire. On a pris un engagement. On est marié civilement, on est marié devant Dieu. La bénédiction à l'église n'est pas une obligation de doctrine. C'est pas parce que c'est un choix que l'on fait. On dit, tiens, moi je crois en Dieu, j'aimerais qu'on prie avec moi, avec les anciens de l'église, voilà, je demande la grâce de Dieu. Mais ce n'est pas parce que vous ne passerez pas par l'église que vous n'êtes pas marié devant Dieu. Est-ce que vous le croyez, mes frères et sœurs? Moi, j'entends tellement d'idioties que je suis obligé de dire ces choses. Quand vous avez dit oui devant monsieur le maire, vous êtes marié devant Dieu. C'est pour ça que moi, je ne fais pas redire oui aux gens qui se marient. Vous avez remarqué, dans les églises, on me fait redire oui. Alors tout ça, c'est important. Je le répète, le passage à l'église n'est pas une obligation doctrinale. Ce n'est pas écrit dans la Bible que quand quelqu'un se marie, il doit passer par l'église. Par contre, si vous êtes passé par l'église, si quelqu'un dénonçait le pasteur, le curé, l'imam ou le prêtre, il pourrait y avoir un gros problème. Vous avez lu avec moi. La Bible appelle le mariage ce qui, dans le pays en question, est le mariage. D'accord ? Un chrétien, il aime être dans la légalité. Oui ou non, un vrai chrétien, il aime être dans la légalité. Alors, un autre texte, vous voyez qui m'est venu hier quand je préparais. Dans le Jean chapitre 4, regardez bien, il y a une histoire merveilleuse. Vous connaissez cette histoire extraordinaire de Jésus qui va vers cette femme. Je pense que cette femme, elle n'aurait pas fait la démarche. Mais Jésus va la faire. Béni soit Dieu pour toutes les fois, il vient vers nous. Vous ne croyez pas ? Jean chapitre 4, Jésus va vers une femme qui a quand même eu de gros problèmes. Elle a eu de gros problèmes, donc elle se cache, elle va en plein midi chercher de l'eau, ce n'était pas l'habitude. Elle se cache, Jésus va vers elle. Et Jésus, bien sûr, lui dit au verset 13, regardez bien mes frères, c'est sérieux. Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est une promesse que Jésus fait à cette femme qui n'a été mariée que 5 fois. Et Jésus dit, la femme lui dit, mais Seigneur, donne-moi cette eau. Elle a compris, elle commence à comprendre quelque chose de spirituel, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Vous connaissez cette histoire? Regardez bien la réponse de Jésus. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, je ne sais pas si elle était veuve ou divorcée, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Est-ce que c'est clair? Et quand on lit la suite, Jésus lui propose la grâce, la vie, de la désaltérer, et quand elle est d'accord, il lui dit, ok, appelle ton mari. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, mets ta vie en règle. Alors, elle a eu 5 maris. Alors, on pourrait dire, est-ce que cette femme, elle est bien? Il y a de quoi parler là-dessus. Ce qui nous prouve que Dieu veut bénir les gens, même s'ils ont échoué plusieurs fois. Vous le croyez, ça? Est-ce que vous le croyez? Ben oui. Alors, n'en profitez pas pour justifier de la légèreté. Mais Jésus, il veut bénir cette femme. Mais il faut qu'elle règle ce problème. Et la suite nous montre bien qu'elle a dû courir à la mairie et dire, voilà, il faut que je me marie, il faut que je me marie. L'officier de la mairie a dû dire, ah, tu viens pour la 6e fois. Qu'importe. En tous les cas, une chose est sûre, que quand on est confronté à Jésus-Christ, on veut mettre sa vie en ordre. Voilà à quoi on reconnaît une véritable repentance. Les fruits de la repentance provoquent une véritable conversion. Et c'est pour ça que, moi je vous dis, si vous saviez tout ce que j'entends, je n'ose même pas vous le dire. Mais il faut qu'on dise les choses. Je le répète, je t'instruis pour ton bien. Et s'il y avait des personnes qui sont dans ce cas, eh bien demain matin, à 9h05, vous serez dans votre mairie, si vous aimez Dieu. Parce qu'il ne faut pas le faire sous la contrainte. Il faut le faire par amour de la vérité. Il faut le faire parce qu'on veut plaire à Dieu. Il faut le faire parce que les débauchés, les impudiques, les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Bien sûr que vous pouvez tomber sur des gens qui vous disent « Oh, mais t'inquiète pas, tu sais, ce que le pasteur y dit, c'est sa façon de voir. Toi, sois sincère. » Eh bien, justement, si tu es sincère, ma pauvre, tu vas être sincère avec la vérité. C'est quoi la sincérité, au fait? C'est quoi la sincérité? Sincère, ça veut dire sans cire, ça veut dire sans masque. Ça veut dire que je suis vrai avec ce que Dieu dit. Et les gens n'écoutent plus rien. Honorer le mariage, que le mariage soit honoré de tous. Vous entendez, mes frères et sœurs? Vous êtes mariés, vous voulez vous marier, vous devez honorer le mariage. Et voilà, moi, j'en fais un point d'honneur. Je veux, parce que vous honorerez l'Église et vous honorerez le Seigneur, mes frères et sœurs. Quand même, quand on est chrétien, on n'a pas peur de s'engager. Ah, moi, j'ai peur de me marier. J'ai peur de m'engager. Eh bien, moi, je vous plains. Et je vous plains, mademoiselle, si vous êtes avec quelqu'un qui n'a pas le courage de s'engager. Ça, c'est peut-être personnel. Mais franchement, je le pense. Quand on n'a pas le courage de s'engager avec quelqu'un, quelle sorte de conjoint on va avoir? C'est sérieux, mes frères et sœurs. Parce que quand même, quand on ne veut pas se marier, c'est qu'il y a un problème. Alors là, vous allez me dire, je déborde un peu, peut-être. Alors on ne va pas déborder, on va aller plus loin. 1 Timothée chapitre 4. Regardez bien. Ce que je vous dis, mes frères et sœurs, c'est beaucoup plus sérieux que ce que nous ne pensons. Regardez ce qui est dit à la fin. C'est dit d'une manière expresse. Si vous lisez dans un dictionnaire ce que ça veut dire expressément, vous allez être étonné de la définition du mot expressément. Vous voyez, 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. Expressément, ça veut dire précisément. Ça veut dire d'une manière déterminée. C'est quelque chose de précis qui vient de la part de Dieu. C'est quelque chose de déterminé. Mais l'Esprit dit expressément, donc d'une manière précise et déterminée, que dans les derniers temps, et nous y sommes, croyez-moi, quelques-uns abandonneront la foi. Mais il n'y a pas qu'abandonner la foi, mes frères et sœurs. N'oubliez pas qu'il y a plein de gens qui perdent la conscience aussi. Parce que quand on perd la foi, il ne faut pas longtemps pour perdre la conscience. C'est écrit dans la Bible qu'il y a des gens qui ont perdu la conscience. Et quand un chrétien se gargarise et va dire à tout va, à n'importe qui, que c'est pas grave, que ce qui est important c'est le cœur. C'est pas vrai, oui, le cœur qui obéit à Dieu. Et regardez bien, c'est pas moi qui le dis, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Ça vient de l'enfer, du diable. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Et qu'est-ce qu'ils prescrivent? De ne pas se marier. Vous avez vu? Ça vient de l'enfer, ça. De s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris à l'action de grâce. Ils prescrivent de ne pas se marier. Mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez compris. Vous avez vu comment dans notre loi, dans notre pays, presque dans tous les pays, remarquez, on a changé les lois. Vous avez vu tout ce qui se passe aujourd'hui avec le mariage pour tous, etc. Dans la parole de Dieu, ça s'appelle des abominations. Ça s'appelle une infamie. Et je le dis devant Dieu, si notre pays est dans l'état qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'on a voté des lois infâmes et on est en train d'attirer la colère de Dieu sur notre nation. Vous savez que c'est vrai. Et le jour de la colère, il vient. Et toutes ces choses contribuent à exacerber la colère de Dieu. La colère, elle va monter au visage de Dieu. C'est écrit. Dieu est en colère à cause de ces choses. Bien sûr que nous sommes ses enfants. Nous sommes protégés. Si nous sommes à l'abri, ne vous inquiétez pas, Dieu n'est pas en colère contre ses enfants. Dieu bénit ses enfants. Mais je peux vous dire que Dieu est en colère contre notre nation. Et qu'il faut savoir faire des choix intelligents. Regardez comment Lot et sa femme ont fait des choix, des mauvais choix, lorsque la bénédiction matérielle s'est présentée. Ils ont préféré la ville de Sodome. Il l'a payé cher. Il l'a payé cher, Lot. On le paye cher lorsqu'on fait des choix qui vont nous induire dans le matérialisme. Béni soit Dieu pour le matériel. Moi, je suis content d'avoir mon salaire. Merci pour le 13e mois. Merci vraiment. Merci. Il y a des églises, il paraîtrait qu'il y a le 14e mois. Je blague. Je plaisante. C'est vrai que c'est une bénédiction. Oui ou non? Merci, le conseil d'administration. Vraiment, merci du fond du cœur. Mais mes frères et sœurs, ne faisons jamais des choix matériels. Faisons toujours des choix spirituels. Vous avez vu comment elle a fini, la femme de Lot? On en parlera des couples. Quand les couples s'unissent pour mentir, comme Ananias et Saphira. Eh oui, ce sont des choses sérieuses. Il y a des conseils de Dieu. Dieu veut qu'on regarde à sa parole. Lisez la parole. Même si vous ne comprenez pas tout, vous croyez que moi je comprenais tout au début? Il y a des choses que je comprends que maintenant. Et je la lis tout le temps. Mais plus vous la lirez, plus le Saint-Esprit vous éclairera. Il y a des situations, vous savez, Lucas le disait tout à l'heure, la vie avec Dieu, c'est une bénédiction. Mais il y a plein de situations dans la vie aussi. De situations où Dieu nous teste, oui ou non? Il nous teste. La vie, elle est faite de difficultés. Et il y a des temps difficiles qui viennent sur la terre. C'est pour ça que l'Église, elle devrait avoir la grâce d'honorer le mariage. Que le mariage soit honoré de tous. Même si vous n'êtes pas chrétien. Si vous êtes là, que vous n'êtes pas encore baptisé, que vous découvrez l'Évangile, vous devriez être d'accord avec cette parole parce que c'est Dieu qui le demande. Que le mariage soit honoré de tous. Et la vie chrétienne, ce n'est pas que le salut, même si le salut est un bienfait extraordinaire. La vie chrétienne, c'est apprendre à réagir dans les moments de crise, dans les moments de difficulté, parce qu'on traverse tous des crises, on traverse tous des difficultés. Et il faut être là comme des sources de bénédiction dans l'Église. Je pensais ce matin à plusieurs couples, je pensais à Prisca et à Aquila. On pourrait quand même lire un bon témoignage. Vous êtes d'accord, hein? Regardez dans Romains au chapitre 16, Paul, c'est dans la Bible, Dieu a voulu que nous le sachions. Romains chapitre 16, regardez, comment il est beau ce témoignage. Quand même, c'est des choses sur lesquelles on peut s'arrêter. Il salue une diaconesse qui est à Chancré. Et regardez ce qu'il dit, Romains chapitre 16, verset 3. Regardez comment c'est beau, un couple. Il n'y a pas que des Ananias et Saphira dans l'église. Il y a aussi des Prisca et des Aquila. Au Romains chapitre 16, verset 3. Saluez Prisca et Aquila, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Ils ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Alléluia. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toute l'église des païens. Même les païens témoignaient. Du témoignage de ce couple. C'est extraordinaire. Ils ont exposé ma tête. Prisca, ça veut dire petite vieille. Et Aquila, ça veut dire l'aigle. On a vite fait de taxer de petite vieille ou de petit vieux les gens qui respectent les principes du Seigneur. C'est pas vrai? Moi, on va me taxer de petit vieux, quoique ça commence, donc ce n'est pas un trop gros problème. Mais on a vite fait de taxer de vieux jeu les gens qui disent la vérité. Et dans l'église du Seigneur, il y a besoin de petits vieux, de petites vieilles, qui sont des témoignages. Parce que quand on a un petit vieux, une petite vieille, on devrait avoir une expérience qui permet de bénir les gens dans les églises. Oui ou non? Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes mariés, mais vous devriez être une source de bénédiction pour les jeunes couples, pour les jeunes qui vont se marier, etc. Oui ou non? Est-ce que vous êtes une bénédiction pour les jeunes? Les jeunes, vous pourriez peut-être dire, ah ben moi, quand je vois ce couple, ça ne me donne pas envie de me marier. Vous l'avez jamais entendu, ça? J'exagère? Je suis en pleine dépression? Ou est-ce que c'est la vérité? Ah ben moi, quand je vois ces gens, ça ne me donne pas envie de me marier. Ah, ils prient, mais ils sont tout le temps en train de s'allumer quand ils sont dans la rue. Moi, ça ne me fait pas rire. Hein? Parce que ce n'est pas comme ça qu'on aura un réveil, mes frères et sœurs, dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Oui, un petit vieux, des gens qui ont des principes bibliques, de la vérité, je ne parle pas de légalisme, je ne parle pas de laxisme, je parle de la vérité. Dieu soit béni pour les Aquilas, les aigles, c'est-à-dire ceux qui sont capables de prendre un peu de hauteur, c'est ça que ça veut dire, et de voir les choses. Un aigle, il peut voir un pigeon à 10 kilomètres. Est-ce que nous sommes capables de voir les choses qui arrivent? Est-ce que vous voyez que la colère de Dieu, elle vient sur la terre? Vous le voyez que la colère de Dieu, elle vient sur la terre? Est-ce que vous le voyez? Moi, je peux vous dire que si vous prenez un peu de hauteur, vous allez le voir, croyez-moi. Des couples bénis, voilà ce que Dieu voudrait, mes frères et sœurs. Un homme qui prie avec sa femme, un homme qui encourage sa femme, une femme qui aide son mari. Ève, elle n'a pas aidé son mari. Adam n'a pas aidé sa femme. Pourtant, je le répète, ils étaient dans un état de perfectionnement total. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'on a tout reçu qu'on prend la décision d'aider. Est-ce que vous aidez votre mari? Ou est-ce que vous lui faites toujours des reproches? Même si certaines sont peut-être justifiées. Je sais de quoi je parle. Est-ce que vous encouragez votre mari? Mes sœurs, répondez-moi. Et mes frères, est-ce que vous aimez votre femme? C'est quand la dernière fois vous l'avez pris dans les bras pour dire « Ma fille, ma femme, je t'aime. » Ou à vos enfants? « Oh, monsieur, oh, on n'est pas comme ça dans la famille. » Eh ouais. Est-ce que c'est écrit « Soyez plein d'affection » ? Vous savez, on a besoin d'affection. On n'est pas les Rambo, les Schwarzenegger, tout ça, c'est dans les films. Non, 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 mais moi, je suis un homme. Moi, je suis la reine de génération de Jean Gabin. Je l'ai entendu, ça, moi. Non, mais ce n'est pas des références, moi, je vous le dis. Les références, notre modèle, c'est le Seigneur Jésus. Et mes frères et sœurs, quand même, moi, c'est un sujet... Moi, je vous assure. Hein. Vous savez, ce matin, je me suis réveillé parce que je n'avais pas fini ma conclusion. Et je me suis réveillé à 3h30. Parce que je n'avais pas terminé. Je savais qu'il me manquait une pensée dans ma prédication. Ça m'empêchait de dormir. Et je savais que le Seigneur allait me donner un dernier texte. On va le lire, s'il vous plaît. C'est juste avant l'Apocalypse, dans l'Épître de Jude. Il parle des gens légers, des chrétiens, à la Ananias, à la Saphira, à la Caïn, à la Balaam, à la Corée. Quand même, mes frères et sœurs, les dégâts dans les églises à cause des gens qui n'obéissent pas, à cause des couples qui vivent dans le concubinage, qui ne veulent pas se marier. Regardez ce que Dieu dit. Mes frères et sœurs, lisons-le avec solennité. Je vous assure, c'est le Seigneur qui me l'a donné ce texte ce matin, croyez-moi. Jude, verset 12. Tous ces gens qui n'obéissent pas, il fait allusion à Caïn, à Balaam et à Corée, et on pourrait ajouter un petit peu quelques-uns sur la liste. Qu'est-ce qu'il dit? On pourrait même s'arrêter sur la première phrase. Ce sont des écueils dans vos agapes. Vous savez ce que c'est l'agape? L'agape, c'est les repas fraternels. On aime la communion fraternelle. Oui ou non? Est-ce que c'est bien les repas fraternels? Ben ouais. On a besoin de prendre des repas avec sa femme, ses enfants. Mais avec les frères et sœurs, c'est un peu un repas, ça. Non? Est-ce que c'est un repas fraternel? Mais voyez quand même, il faut être sérieux, il faut le dire. Des écueils. Vous savez ce que c'est un écueil? Vous savez ces rochers pointus là, qui sont juste en dessous de la mer. Et quand les bateaux arrivent, ils échouent. On ne les a pas vus. Et il y a des gens au milieu de nous, alors je ne sais pas s'il y en a ici, mais je parle d'une manière générale, et je sais que c'est vrai. Je vous ai dit l'autre jour qu'il y avait un couple entre guillemets, parce qu'un couple, il faut quand même dire aujourd'hui qu'un couple, c'est un homme et une femme. Hein. Il y a un couple qui est venu, et bien sûr, comme je le fais, au bout de 4 ou 5 fois, j'ai été les trouver, je leur dis, voilà, vous êtes ensemble. Oui, oui, on est ensemble, je m'appelle monsieur, madame, et pas le même nom, vous êtes marié, vous n'avez pas le même... Ah non, on n'est pas marié. Vous êtes chrétien, oui. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? 20 ans. Oh, on n'a pas le temps, monsieur Gaud, d'aller se marier. Ça, c'est la sincérité, oui. Mais voyez ces gens qui avaient, je ne sais pas, 50 ans. Moi, je pense à nos jeunes, oui, qui voient ça. Parce que quand même, il faut le dire, il faut le dire. Est-ce que je suis légaliste? Est-ce que je suis radicaliste, comme j'entends de plus en plus? Écoutez, mes frères et sœurs, ces gens-là, si vous vivez dans le concubinage depuis des années, que vous êtes chrétien, et que certains prennent la Sainte Cène en plus... Moi, je vous assure que là, vous n'êtes pas en train de vous envoyer au ciel. Hein. Vous êtes des écueils dans nos agapes. Vous le prenez comme vous le voulez. Mais ce n'est pas moi qui le dis. Je crois que si on veut que l'Église soit bénie, il faut honorer le mariage. Il faut honorer les familles. Ce sont des écueils. Oui, je pourrais faire une litanie, oui, dessus, oui. Faisant impudemment bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau. Vous savez, c'est terrible quand il n'a pas plu depuis. Imaginez, il n'a pas plu depuis 3 mois. Il y a des nuages qui passent. Et les nuages, il n'y a rien. Il n'y a pas d'eau. Voilà, ça, on a l'impression que ça va faire du bien. Et Dieu parle de ces gens. Il parle des gens. Le Seigneur ne nous demande pas de nous intéresser forcément aux lois du ciel. Il nous demande de comprendre qu'il y a des gens, ce sont des nuages sans eau. Ils sont là, ils paraissent spirituels, et en vérité, il n'y a aucune fraîcheur. C'est grave ces choses, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que les gens, ils ne prennent pas au sérieux la parole. Poussés par les vents, des arbres d'automne, sans fruits. Des arbres sans fruits. Ça fait pitié. 2 fois morts. Vous savez ce que ça veut dire, ça, 2 fois morts? Ça veut dire qu'ils étaient morts avant de se convertir. Et comme ils n'ont pas veillé, de nouveau, ils sont morts. Et ça met au clair, une fois de plus, tout ce qui enseigne sur la doctrine de la sécurité éternelle, on ne peut pas perdre le salut. Eh bien, amusez-vous avec ça. Moi, je vous dis qu'un chrétien, il peut perdre le salut. Demandez à Corée, demandez à Balaam, demandez à Caïn, si on ne perd pas le salut. Mes frères et sœurs, Ce sont des choses, les vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté. Voyez, vous avez vu la mer quand elle est écumeuse? Vous avez vu? C'est terrible ça, quand les gens viennent et reviennent toujours. Mes frères et sœurs, il faut absolument qu'on soit sérieux. Regardez, on lit la suite, hein? C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies. Tous les impies, c'est-à-dire, pas les pécheurs, les impies. Là aussi, il faut faire la différence. Un impie, c'est quelqu'un qui n'a plus de piété. Parmi eux, de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ils ont proférées contre des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort. On n'a pas le droit, mes frères et sœurs, de se plaindre. En France, dans notre petite assemblée de Toulouse, on n'a pas le droit de se plaindre. Et si vous vous plaignez, allez 15 jours à Alep ou allez 15 jours au Niger. Demandez des adresses à M. Bordeneuve. Allez-y, 15 jours, ça suffira. Est-ce qu'on a le droit de se plaindre dans notre pays et de murmurer et de râler? Mes frères et sœurs, tout ça, ce sont des écueils. Un chrétien, même s'il souffre, il peut exprimer une certaine joie. Ce matin, je discutais avec Mme Espèce qui a perdu son fils il y a eu 15 jours. Et bien moi, j'ai vu une femme en paix. Quel témoignage. Pourtant, Mme Espèce, il n'y a pas 30 ans qu'elle est convertie. C'est pas vrai? 4 ans? 4 ans, j'allais dire 2 ans. Et elle est en paix. C'est pas vrai? Mes frères et sœurs, moi vous savez, Dieu nous donne du temps. Je termine avec ça parce que j'ai tellement de choses à vous dire. Vous savez, Dieu a parlé à l'église de Thyatire, il a dit, je te donne du temps pour que tu te repentes. Et Dieu dans sa patience nous donne du temps. Que son nom soit béni. Sa patience est notre salut, mais il ne va pas falloir jouer longtemps avec ça. Parce que la patience du Seigneur va s'arrêter. Et si vous imaginez qu'il n'y aura pas de jugement parce que je vis dans le péché, mais je n'ai pas l'impression que ça contrarie beaucoup le Seigneur, Ananias et Saphira, ils sont tombés dans le temple morts parce qu'ils avaient menti. Oui, parce qu'il y avait la gloire de Dieu dans l'église. Quand il n'y a plus la gloire de Dieu, le Seigneur diffère son jugement. Croyez-moi. Je n'ai pas envie de rire, hein. Avec ces choses-là, parce que je sais que des milliers de chrétiens, de croyants, iront en enfer parce qu'ils n'ont pas pris au sérieux ces choses. Je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente. Alors mes frères, il faut se repentir. Et si vous vous repentez, ça c'est réglé. Si vous êtes dans le péché, si vous êtes dans le concubinage, si vous êtes dans un péché quelconque, mais imaginez, vous vivez dans le concubinage. Vous dites, demain, le mardi, samedi, je vais à la mairie, il vous faut 2 témoins pour vous marier. C'est tout, même pas 1 centime, 2 témoins. Si vous mourrez lundi, est-ce que vous êtes sauvé? Eh bien oui, parce que vous avez décidé devant Dieu d'obéir. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme pour le baptême. Il y a des gens, ils ne sont pas encore baptisés, mais ils sont vraiment convertis. S'il meurt entre-temps, le brigand sur la croix, vous êtes sûr qu'il est sauvé parce qu'il n'a pas pris le baptême? Le brigand repentant, est-ce qu'il était sauvé? Mais oui, voyez, mais il avait donné son cœur au Seigneur. Et quand il y a une vraie repentance, on prend là la décision de dire « Oui, j'obéis. Je veux être prêt quand Jésus va revenir. » Parce qu'il va juger les adultères. Il va juger les impudiques. Moi, ça me brise le cœur parce que je vois de plus en plus ces gens-là qui prennent le dessus dans l'église. Et qui essaient de prouver aux gens, aux petits vieux et aux petites vieilles, qu'ils ont tort. Mes frères et sœurs, c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Moi, je vous assure, moi, ça me brise le cœur. Parce que je vois de plus en plus de chrétiens qui... Le gros sujet de discussion, est-ce qu'on peut baptiser les gens qui sont dans le concubinage? Moi, je vous dis que je ne baptiserai aucun. Vous voyez comment on est en train de pervertir. Ce sont des doctrines de l'enfer. Ouais. Et moi, ça ne me fait pas rire, je vous le dis. Alors que Jésus a dit, toutes les familles de la terre seront bénies. Moi, je crois que votre famille, elle peut être bénie. Même si les temps sont difficiles, même si tout va de travers, au calvaire, il a tout accompli. Vous entendez? Et vous pouvez sortir de ce lieu de culte béni, comme vous ne pouvez pas vous imaginer, parce que vous aurez pris la décision de dire « je vais » et de bon cœur obéir, même s'il me faut exposer la tête pour des serviteurs de Dieu. Vous savez, moi je bénis Dieu pour ceux qui me soutiennent. Vous savez, moi, ce matin, j'avais un combat dans mon cœur. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Si vous n'avez jamais prêché des trucs pareils, vous ne pouvez pas savoir. Parce que je peux vous dire qu'il y en a un qui ne doit pas être d'accord avec ce genre de prédication. Est-ce que vous me soutenez dans la prière? Mais vous n'êtes pas nombreux quand même. Vous n'avez pas dit amen. Jonathan, tu as dit amen? Mais non. Mes frères et sœurs, on va se recueillir. On va lui demander que Dieu bénisse ce message, parce que vous savez, il sera écouté par des milliers de gens. Ce n'est pas le problème, c'est qu'il y a des milliers de gens qui n'obéissent pas. Vous êtes d'accord pour prier avec moi? Qu'on prie vraiment notre Seigneur qui a encore dans ses mains, oui, comme le disait Nicolas tout à l'heure, les marques dans sa main. Vous le croyez que Jésus a les marques? Vous le reconnaîtrez, le Seigneur, dans le ciel. Bon, il n'y aura pas besoin des marques, mais vous les verrez, les marques. Moi, je lui demanderai de les voir. Parce que c'est grâce à ces marques qu'on est béni, mes frères et sœurs. C'est grâce à ces marques. Notre Père, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions de nous avoir donné des oreilles, des yeux, et d'avoir permis qu'elles soient traduites en français. Seigneur, merci. Parce que cela nous aide à poursuivre le chemin, à continuer la course dans la sainteté, dans la joyeuse obéissance, de vivre dans la vérité. Seigneur, tu sais combien ce message sera entendu dans plusieurs radios, par des milliers de gens, et tu vois tous ces gens qui sont aveuglés. Éclaire-les, Seigneur. Comme tu l'as fait pour nous, et comme nous ne sommes pas meilleurs qu'eux, Seigneur, tous ceux qui te cherchent te trouveront. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.